Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la démocratie et quoi l'environnement démocratique est un levier de performance économique pour les entreprises. Nous en parlons avec Philippe Bolopion, qui est Managing Director et responsable de la stratégie Liberty chez Tobam. Philippe, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, merci beaucoup d'être là. Vous avez rejoint les équipes de Tobam il y a 2 ans, c'est ça, si je ne dis pas
exactement
de bêtises, au lancement de cette stratégie. Yves Chouefati, le patron de Tobam, je le salue, était venu nous raconter effectivement la thèse de cette stratégie Liberty. Elle est assez simple et c'est pas à vous que je vais la prendre, bien sûr. Philippe, vous avez passé 13 ans au sein de l'ONG Human Rights Watch. Vous savez, comme personne, que la démocratie est en déclin dans le monde depuis peut-être 2 décennies maintenant. Le degré de démocratie dans le monde est en baisse, y compris dans les grands pays, et c'est donc un sujet pour des investisseurs.
Absolument. D'abord, je pense qu'il y a finalement peu de gens qui réalisent que la démocratie est en recul dans le monde. Et avec la démocratie, c'est aussi les droits de l'homme qui sont en recul. C'est une tendance qui est quand même assez lourde. 20 ans de déclin, année après année, c'est quelque chose de sévère. Les organismes qui suivent la démocratie dans le monde, que ce soit The Economist Intelligence Unit ou Freedom House ou le Videm Institute en Suède, par exemple, et bien, tous les ans, ils essayent de trouver des nouveaux titres pour leur rapport. La démocratie en danger, la démocratie en recul, la démocratie sur la défensive. Mais finalement, le monde devient de moins en moins démocratique, de moins en moins libre. Et c'est évidemment un sujet de préoccupation pour les citoyens, mais c'est également un sujet de préoccupation pour les investisseurs, parce qu'il y a énormément de raisons de penser que l'autocratie, c'est pas bon pour le business, c'est pas bon pour l'économie et c'est pas bon pour les investisseurs.
Bah oui, mais même plus que quelques raisons, Philippe, tout ça est très documenté. Il y a des travaux de recherche, des travaux académiques, et encore récemment, on en discutait en préparant l'interview, Philippe, mais Darren Acemoglu, le grand économiste du MIT, prix Nobel, travaille sur ces sujets. On n'est pas dans le sentiment ou la perception de quelque chose, là.
Non, tout à fait. Ce que je dirais, c'est que d'un point de vue universitaire académique, le phénomène est quasiment, je dirais, incontestable au niveau macroéconomique. Donc Darren Acemoglu et ses co-auteurs peuvent montrer qu'au cours des dernières décennies, systématiquement, quand un pays passe de l'autocratie à la démocratie, les choses s'améliorent, eh bien le PNB par habitant augmente systématiquement. Et quand un pays connaît la trajectoire inverse, de démocratie à autocratie, la situation se détériore, eh bien le PNB par habitant se détériore également. Donc c'est, je dirais, bien établi au niveau macroéconomique. La nouveauté du travail de Tobam, de la recherche de Tobam, c'est la capacité de montrer que ce qui est vrai au niveau macroéconomique est aussi vrai au niveau microéconomique, au niveau des entreprises, et que donc l'autocratie, c'est pas bon pour l'économie, mais c'est aussi pas bon pour les entreprises qui y sont soumises.
Ouais. Yves Chouefati a cette image magnifique de la courbe en J inversée, c'est-à-dire que l'autocratie au tout début, bah oui, ça peut apporter un peu quelque chose de soi-disant bénéfique, qui peut se mesurer en tout cas en matière de résultats économiques, mais très vite et à long terme, ce sont beaucoup de dommages et de douleurs qui sont infligés, et je reste dans la sphère purement économique.
Purement économique, ouais, effectivement. Ouais. Yves aime bien dire que la décennie la plus profitable au XXe siècle, l'endroit le plus profitable, c'était l'Allemagne nazie entre 1933 et 1943. Un exemple plus récent, c'est la Russie de Poutine, qui, si pour un investisseur habile, était profitable, jusqu'à la guerre en Ukraine, où les investisseurs perdent tout, et pas seulement les investisseurs dans des boîtes russes, mais aussi les investisseurs dans des boîtes occidentales, françaises, américaines, canadiennes, qui elles-mêmes étaient très investies en Russie et ont énormément perdu au moment de l'invasion de l'Ukraine.
Si on rentre dans le détail de la stratégie, comment vous avez défini l'univers d'investissement? Enfin, quels sont les critères, d'ailleurs, qui ont pu être exclusifs, j'imagine, pour certaines entreprises? Qu'est-ce que vous regardez? Jusqu'à quel degré d'ouverture à la démocratie? Je parle de l'environnement dans lequel opèrent ces entreprises. Jusqu'à quel degré d'ouverture à la démocratie est-ce que vous êtes prêt à aller? Et qu'est-ce que vous regardez concrètement du point de vue micro? Est-ce que c'est le nombre d'implantations d'une entreprise dans un pays pays qui est border en termes de démocratie? Est-ce que c'est la part du chiffre d'affaires? Est-ce que c'est la part des investissements? Qu'est-ce qui forme justement l'univers d'investissement de la stratégie Liberty?
Ben, je dirais que c'est un peu le mariage de la science politique et de la finance quantitative, et c'est un peu la beauté pour moi de cette stratégie. Mais d'abord, il faut qu'on définisse notre univers d'investissement. Donc quand on dit autocratie, démocratie, et ben, la démocratie, ça se mesure de manière, je dirais, presque scientifique.
Objective.
Ouais. Objective, par des experts qui publient des rapports tous les ans en regardant des tas de critères. La démocratie, c'est bien plus que des élections. Vladimir Poutine a été réélu avec 80% de voix. Il y a des élections dans les pays autocratiques tout le temps, donc il faut mesurer des tas de facteurs. Et je dirais, notre approche, c'est d'exclure vraiment les autocraties qui sont presque indécrottables d'une certaine manière.
Endémiques, quoi.
Exactement. Ouais. Donc, on n'exclut pas des démocraties imparfaites, mais on va vraiment exclure les pays dont on ne peut pas prétendre que ce ne sont pas des autocraties. Non. Pourquoi ? Bah, parce que c'est là que le danger est. C'est quand on est soumis aux décisions d'un gouvernement qui n'a de compte à rendre à personne, ni à son opinion publique, son électorat, sa presse, sa société civile, qui peut prendre des décisions qui bénéficient uniquement l'entourage du dirigeant ou ses vues géopolitiques. Et ça, évidemment, ça a un coût pour les investisseurs. Donc, étape 1, on va éliminer du portfolio toutes les entreprises qui sont listées dans des pays autocratiques. Et ce n'est pas un jugement sur la valeur de l'entreprise, c'est un jugement sur le fait que si on est Alibaba, on a peut-être un super business, mais le patron d'Alibaba peut dire quelque chose de vaguement critique des autorités chinoises et disparaître pendant plusieurs mois de la circulation. D'accord. Et ça va impacter le cours de l'entreprise. Donc, première étape, on élimine du portefeuille les entreprises qui sont listées dans des pays autocratiques. Deuxième étape, et peut-être la plus importante et la plus originale, c'est qu'on va regarder chaque action, chaque entreprise qui reste dans le portefeuille, et on va mesurer de manière quantitative son exposition au marché chinois, au marché russe, au marché turc, son exposition à tous les pays autocratiques, en regardant tout simplement la corrélation entre le cours de cette action et le cours de ces marchés-là. Et de cette manière-là, on va pouvoir identifier de façon très précise quelles sont les entreprises qui sont les plus exposées aux pays autocratiques. Donc, si on prend une boîte comme Volkswagen, ouais. Une boîte allemande, bien sûr, ouais. Eh bien, on se rend compte que Volkswagen est très, très dépendant de la Chine. Beaucoup de son business est en Chine. Jusqu'à récemment, Volkswagen avait une usine, d'ailleurs, dans la région du Xinjiang, la région des Ouïghours, où il y a des crimes de masse commis par les autorités chinoises. Et donc, si Volkswagen est très exposé à la Chine, eh bien, nous, on pense que sur le long terme, ça va coûter en termes de performance. Et donc, on va essayer de diminuer notre exposition à ces entreprises qui sont elles-mêmes très exposées aux pays autocratiques.
Ouais. Ça donne un fonds. Alors, s'il y a une approche quantitative, c'est un fonds qui a beaucoup de positions, beaucoup de lignes aujourd'hui, Philippe ?
Oui, c'est un fonds qui a moins de lignes que les indices de référence, mais qui reste très diversifié. Ouais, ouais. En fait, on peut construire un portefeuille qui est exposé de manière minimale à l'autocratie, tout en restant finalement assez proche du marché, sans prendre de gros biais en termes de secteur, par exemple, ou des biais par rapport aux facteurs de risque qui sont connus des chercheurs. Nous, on pense que la nouveauté pour Tobam, c'est vraiment d'avoir découvert un facteur de risque qu'on appelle le facteur de risque autoritaire, qui se cache dans les portefeuilles, qui n'est pas observé, qui n'est pas étudié, qui pourtant a un impact profond sur la performance des entreprises. Et c'était vrai dans les 20 dernières années, on le voit à travers notre recherche quantitative, c'était vrai dans les 20 dernières années, qui étaient des années plutôt pacifiques, de globalisation,
oui,
heureuse.
De la paix, oui.
Mais beaucoup d'experts géopolitiques pensent qu'on est rentré dans une nouvelle ère géopolitique avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et c'est une ère qui va être marquée par une opposition frontale entre les États-Unis et la Chine, dans une moindre mesure la Russie, et cette opposition va créer des conflits, des guerres qui vont vraiment faire des ravages dans les marchés financiers. Et nous, notre intuition, c'est que peu de gens sont préparés à ça, et notre approche Liberty, c'est une façon presque systématique, ah ouais, de gérer ce risque.
Ah ouais. Il y a une forme de déni encore dans la communauté de l'investissement mondial, même si c'est des sujets dont on parle tous les jours. Hein. J'en suis le témoin ici, mais dans la construction de portefeuille, il y a quelque chose qui n'est pas encore complètement intégré. C'est une stratégie qui existe depuis 2 ans, qui a été back-testée également. Philippe, qu'est-ce qu'on peut dire du comportement de la stratégie dans ces moments de volatilité géopolitique, par exemple?
Tout à fait. Je dirais, depuis que la stratégie stratégie est live depuis 2 ans, les résultats sont excellents, même meilleurs que les résultats qui ont été backtestés. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans doute nous avons raison, que sans doute être soumis à des pays autocratiques sur le long terme, eh bien ça coûte. Ouais. Et c'est intuitivement assez facile à comprendre, mais c'est autre chose de le mettre en œuvre dans une approche de portefeuille.
L'investisseur a besoin d'un peu plus qu'une intuition parfois, c'est ça Philippe.
Exactement, exactement. Mais je pense qu'on parle beaucoup à Tobam, à de grands investisseurs, des grands fonds de pension ouais. nord-américains par exemple. Moi je suis basé à New York, et dans ces grands fonds de pension, la préoccupation principale en ce moment c'est le risque géopolitique. Ouais. Beaucoup de ces fonds de pension embauchent des équipes d'experts géopolitiques, d'experts du risque. Il y a un livre que j'aime beaucoup du responsable du risque géopolitique de la Caisse des dépôts du Québec, la CDPQ à Montréal. Il s'appelle Guillaume Calonico et son livre, ça s'appelle « Le réveil géopolitique de la finance ». Et sa thèse, c'est qu'on entre dans un monde de guerre et que le monde de la finance n'est pas prêt pour ça.
Comment s'en servent justement les clients, là, ceux qui achètent la stratégie? Est-ce que pour eux, c'est un moyen de couverture dans un portefeuille global, forcément exposé encore aujourd'hui, j'imagine, à ces risques autocratiques? Ou est-ce que vous le vendez comme un levier, j'allais dire, de performance absolue, Philippe?
J'irais qu'il y a il y a plusieurs cas de figure. Ouais. Il y a effectivement des gens qui pensent que nous avons mis le doigt sur un facteur de risque que personne ne voit et que plus tôt on en bénéficie, et bien plus on peut faire de profit en exploitant ce facteur de risque. Il y a effectivement des gens pour qui c'est une allocation satellite, d'une certaine manière, qui va performer beaucoup mieux si, mettons de la science-fiction géopolitique, si demain la Chine envahissait Taïwan, par exemple, eh bien, il est très probable que les marchés prendraient un coup très sévère. Mm-hmm. Notre stratégie, sans doute, se comporterait beaucoup mieux. Donc, c'est une façon de se protéger contre ce type de risque. Et puis, il y a aussi des investisseurs qui, tout simplement, pour des raisons, je dirais, plus éthiques, ne veulent pas être investis dans des pays autocratiques. Ouais. Ça ne leur plaît pas de savoir que leur argent va dans des boîtes chinoises, des boîtes russes qui sont exploitées par les autorités de ces pays pour ensuite saper la démocratie non seulement en Chine et en Russie, mais aussi essayer d'influencer des élections au Canada, en Europe, aux États-Unis. Et c'est un peu le drame de ces 20 dernières années, c'est que nous avons investi massivement dans des entreprises russes et chinoises en espérant faire des profits. La plupart des gens n'ont pas fait de profits, mais par contre, les régimes russes et chinois ont profité de cette manne. Ils se sont accaparés ces profits. Ils s'en servent pour essayer de saper la démocratie globalement, pour vraiment influencer le cours de la démocratie jusque dans des pays comme la France, les États-Unis, le Canada, l'Australie. Et on en voit des preuves quasiment tous les jours.
Un mot rapide pour finir, Philippe, parce que l'actualité de la stratégie, c'est qu'elle est désormais déclinée sous forme d'ETF.
Tout
pourquoi? Parce que c'est l'accès à une clientèle différente, c'est le sens de l'histoire.
C'est un ETF américain listé sur la bourse de New York, lancé avec un partenaire, une firme texane qui s'appelle Westwood. Et l'intuition de Westwood, c'est qu'il y avait vraiment un marché retail, un marché au-delà des grands fonds de pension, des grands investisseurs auxquels on parle, qui est sensible à ces thématiques, des gens qui veulent tout simplement pas que leur retraite ou leurs économies soit investi en Chine, en Russie, en Turquie, en Arabie Saoudite.
Merci beaucoup Philippe, merci d'être venu nous voir pour reparler de cette stratégie Liberty qui a été lancée il y a 2 ans maintenant chez Tobam. Vous en êtes le responsable, managing director chez Tobam, Philippe Bolopion, qui était avec nous, l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse.